Je suis content de vous voir ce matin, puis on continue cette série guérison, et ce matin on va parler d'un sujet qui est vieux comme le monde, mais toujours autant d'actualité. Je vais parler de la jalousie. Oh, oui, ça ne fait pas lever les foules, ça. Ouais. Combien avoueraient qu'ils sont jaloux ce matin? Non, ne levez pas les bras, levez pas les bras. On le sait parce que tout le monde est jaloux. En fait, la jalousie est cyclique. Même si en ce moment, tout va bien, tu le sais qu'il y a un moment donné dans ta vie où t'es attaqué à être jaloux à quelqu'un, de te comparer de plus en plus et puis de dire... Oh, parce qu'on est tous jaloux. Ça fait partie de l'expérience humaine. On est tous jaloux, mais personne ne veut l'avouer. Encore moins dans une église. Est-ce qu'on parle de jalousie dans une église? Oui, parce qu'on est autant imparfaits les uns que les autres. Et on a tous besoin de perfectionnement. Combien disent amen? Il y en a qui, dans leur vie... sont jaloux, et puis il y en a d'autres qui essayent de rendre les autres jaloux à tout prix. Leur premier objectif de vie, c'est d'avoir le plus de jaloux. Vous savez, c'est ceux qui prennent des vacances, pas pour se reposer, mais pour prendre la parfaite photo de leurs pieds devant la piscine, avec le cocktail. Si vous avez une photo de pied avec une piscine et un cocktail, ne soyez pas visés. Mais je dis que certains, il y en a qui, pour eux, au plus je vais faire parler les gens de ce que j'ai, de ce que je fais, au plus ça va me donner un ego. Personne n'est comme ça, hein? Non. Mais il y a vraiment un côté dans la jalousie qui est vicieux. Et puis, à chaque fois que quelqu'un essaie de rendre quelqu'un jaloux, ça lui revient toujours en pleine face. Cette semaine, j'entendais une histoire d'un grand frère qui est maintenant adulte. Il dit qu'il est né le même jour que sa sœur, mais à 3 ans d'intervalle, sa petite sœur. Et à chaque fois, à la date de leur fête, ils recevaient un chèque de leur grand-mère qui habitait de l'autre partie du pays. Donc, elle n'était pas là, elle leur envoyait une petite carte avec un chèque. Et à chaque fois, lui, il avait comme peut-être 7, 8 ans, puis sa sœur, 3 années de moins. Et puis, ils ouvraient leur chèque en même temps, et puis c'était un chèque de 20 $. Leur grand-mère mettait 20 $ dans le même chèque. Puis, à chaque fois qu'il l'ouvrait, il disait « 1 000 $! 1 000 $! » Puis là, sa petite sœur ouvrait 20 $. Ce qui fait qu'elle allait dans sa chambre, puis elle pleurait. Qui dit « ça, c'est mon genre de joke ». Okay. Il n'y a que des hommes qui lèvent la main. Ouais, t'sais. Puis, chaque année, il dit, ça a duré pendant 3, 4, 5 années. Puis, à chaque année, oh, la fête est là, on ouvre la carte de grand-mère. Puis là, lui, oh, 1 000 $! Puis elle, oh, 20 $. Puis elle passait dans ta chambre. Puis il a fait comme ça plusieurs années jusqu'à que sa grand-mère entende parler de la joke. Ce qui fait que l'année d'après, la fête est là, oh, wow, une carte de mamie. Puis là, lui, il se prépare. Puis là, elle ouvre son chèque avant et puis elle, oh, 1 000 $! Ce qui était vrai. Et lui, il ouvre. 20 $, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été dans sa chambre, puis il a pleuré. Ça nous revient toujours, la jalousie. Si tu essayes de faire rendre les autres jaloux, à un moment donné, tu récoltes ce que tu sèmes. Puis pourtant, c'est multiplié ce qu'on sème. Alors, il y a vraiment un côté où on va parler de la jalousie, parce que Dieu ne veut pas que nous vivions jaloux les uns des autres. Dieu veut nous rendre libres. Il nous dit, j'ai une vie pour toi à vivre, j'ai une destinée pour toi que personne d'autre que toi peut faire. Alors ne regarde pas à droite, à gauche, ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas celui que tu as envie, regarde à moi parce que moi j'ai une vie pour toi et tu vas l'accomplir. Est-ce qu'on peut remercier notre Dieu qui prend soin de nous? Est-ce qu'on peut l'applaudir? Est-ce qu'on peut lui donner la gloire? Que chaque chose que je vais faire dans cette vie va compter et je suis le seul à pouvoir le faire. Il veut que nous vivions une vie qui remplit de joie, trouvant notre joie en lui. Vous savez, la Bible parle de tous les sujets et elle parle de la jalousie. Il y a plus d'une dizaine de passages qui parlent de la jalousie, que ce soit au début de la Bible, à la fin, que ce soit les premiers versets de la Genèse, dans les premiers chapitres de Caïn et Abel, une histoire de jalousie, de rivalité entre frères. Jusque dans la fin, avec les épîtres, Paul, quand il parle à l'Église, il dit « Attention, qu'il n'y ait pas de jalousie entre vous, parce que la jalousie est quelque chose qui tue une Église, qui peut réellement tuer des relations, qui peut réellement abîmer des cœurs. » Et ce matin, je crois que c'est un sujet vraiment pertinent. Et puis à la première réunion, beaucoup de gens sont venus me voir en me disant « ça m'a parlé ce matin, c'était pour moi ». Je prenais pour acquis des choses que Dieu m'a révélées en disant « il faut que tu reviennes à moi ». Combien disent « amen » ? Et Jésus, dans les évangiles, parle d'une histoire de jalousie. C'est une parabole que beaucoup connaissent, peut-être que vous ne la connaissez pas sous cet angle-là, mais c'est la parabole du fils prodigue. Ce qui est incroyable avec la parole de Dieu, c'est qu'elle est vivante. Le même texte peut nous amener tellement à différentes places. On connaît beaucoup le fils prodigue parce que c'est une histoire de pardon, de repentance, de revenir à la maison, revenir à Dieu. On peut la regarder du niveau du père, le père patient, le père qui pardonne, qui fait grâce. Mais à la fin de cette histoire, ce qui était vraiment intéressant quand je l'ai étudié cette semaine, c'est qu'il y a une histoire de jalousie qui est vraiment, vraiment intéressante et qui va nous donner une victoire ce matin sur la jalousie. Est-ce qu'une église peut dire « Amen » ? Alors, on va le lire ensemble. Luc chapitre 15, versets 11 à 32. Si vous n'avez pas votre Bible, ça sera écrit sur le PowerPoint. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea donc alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service de l'un des habitants du pays qu'il envoya dans les champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes, j'ai aucune idée à quoi ça ressemble, mais ça doit être une nourriture pour porcs, que manger les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit donc à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance ? Et moi ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi donc comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le-lui. Passez-lui un anneau autour du doigt, c'était un signe d'honneur, et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. » Désolé pour les véganes. « Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Tout le monde trouve que c'est une belle histoire, sauf un. On continue. « Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demande ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans rien, jamais rien désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. » Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Amen. C'est fou parce que la jalousie, là, prend place dans la première cellule, la famille. Alors que parfois on parle de jalousie, puis on parle de gens qu'on ne connaît même pas, qu'on voit de loin. Non, non, là, ça ramène à la famille. Peut-être ici, tu es là ce matin, puis tu te dis, wow, cette histoire me ramène à ce que je vis en ce moment dans ma famille. Il y a des dissensions, et puis ça part d'une histoire de jalousie, de comparaison, et puis là, ça en est venu tellement à envenimer les choses que là, on ne se parle même plus. Il y a des divisions, il y a des tensions. Est-ce qu'il y a une église qui croit que ce matin, il y a des familles qui vont être restaurées, le pardon va être donné, il y a une liberté, il y a une guérison qui va prendre place parce que quand Dieu est là, il fait un miracle. Est-ce que vous êtes là? La parole de Dieu est parole de vérité qui vient briser les faux raisonnements. Et ce matin, je prie que le Saint-Esprit touche nos cœurs pour qu'on puisse tous, moi y compris le premier, comprendre qu'il n'y a aucune jalousie qui doit rester dans le cœur, aucune comparaison qui est malsaine, que Dieu nous dit, non, ça là, tu es en train de t'éloigner du plan que j'ai pour toi. Vous savez, la jalousie, ça a un cycle. Okay? Ça commence avec la comparaison. Ça amène une insatisfaction. Alors que tu te compares, tu te dis, ah, moi, je n'ai pas ça. Et l'insatisfaction t'amène à la critique, t'amène à commencer à dire, oui, mais voici pourquoi. Et ça amène la mort. Vous savez, si je vous demandais ce matin, à qui te compares-tu? On se compare tous en ce moment. À qui te compares-tu? Autre question plus pertinente, à combien de personnes tu te compares? Depuis jeudi, alors que je travaille ce message, je commençais à analyser ma vie. Je me dis, Ben, regarde la manière dont tu te compares aux autres pendant ta vie. Puis tu vas voir que la jalousie peut être réellement très rapide à revenir. Et c'est vrai. Alors que je préparais mon message, j'étais déjà en train de me dire, ouais, mais est-ce que telle personne a déjà fait un message comme ça? Est-ce qu'il va être bon ce message? Puis, il y a vraiment un côté ministériel où je me dis, eh ouais, mais en même temps, si c'est lui qui le prêchait, oh, il serait tellement meilleur ce message. Puis là, je commençais à me comparer, puis à me diminuer, à me dire, non, mais regarde, est-ce que même t'es digne de... Puis il y avait comme toutes sortes de choses. J'arrive avec mon auto dans mon quartier, puis là, il y a un voisin qui est là, puis qui fait sa pelouse est parfaite. La mienne n'est pas faite, OK? J'ai des enfants en bas âge, puis je trouve difficile avec du temps pour faire juste ma pelouse. Alors, je me compare. Hey, si lui, il voit ma pelouse, il va vraiment se dire. Puis, j'étais encore en train de me diminuer. Puis, j'analysais, je continuais. La manière dont on vient ici ce matin. Puis, tu regardes quelqu'un. Puis, tu dis, ah, elle a été chez le coiffeur. Encore? La semaine dernière, elle n'y a pas été déjà? Puis là, ça commence. Bah, Combien de fois par jour nous nous comparons? Tu vas là-bas, tu vois une belle auto stationnée à côté de la tienne, puis tu dis « Oh, c'est le nouveau modèle. » Alors que pour toi, c'était une belle voiture, mais jusqu'à temps que tu compares, mais tu commences à regarder ta voiture comme « Oh, faut que je change. » Les téléphones, les iPhones, hey, y a le iPhone 12 qui sort. Waouh, moi j'ai juste le 10. Hey, quand même, le 10 fonctionne quand même. Mais il y a toujours un côté où la comparaison nous amène à une insatisfaction. À chaque fois qu'on se compare, on peut se sentir supérieur aux autres. Waouh, regarde ce que j'ai. Je rends jaloux les autres. Ou quand tu te compares, tu te sens inférieur. La nouvelle, c'est que ni l'un ni l'autre n'honore Dieu. Dieu nous a appelés à nous, il nous a donné ce qu'on a besoin. Il nous demande de courir la course qu'on doit courir nous, simplement. Et il dit, commence pas à regarder derrière toi, à côté, regarde juste à moi, parce que toi et moi, on va faire équipe et tu vas vivre une vie qui va être abondante. Combien le croit? Peu importe ce que tu as, peu importe ce que ton voisin a de plus que tu as, Dieu t'a donné assez pour que tu vives une vie abondante. Et si tu trouves ta joie dans ce que ton voisin a et que ce que toi tu n'as pas, ou vice-versa, ta joie n'est pas à la bonne place. Si tu perds ta ferveur, si tu perds ton amour pour les gens juste parce que tu les jalouses, il y a quelque chose qu'il faut inverser. Combien disent amen? On vit dans une société qui ne nous aide pas. Les réseaux sociaux ne nous aident vraiment pas. Je lisais une étude allemande cette semaine qui disait qu'un tiers des personnes avouent se sentir plus mal et plus insatisfaites après s'être connectées à Facebook. Ceux qui vous avez Facebook, soyez bénis. Je l'ai également, ok? Et l'étude révèle que, premièrement, ce sont les photos de vacances qui ont le plus d'impact sur l'insatisfaction. Donc, si vous partez en vacances, postez rien. Non, je plaisante. Combien partent en vacances dans les prochaines semaines? Ce message est pour vous. Non. Ne nous rendez pas jaloux. Okay? La deuxième chose, c'est le nombre de personnes qui nous souhaitent bonne fête le jour de notre anniversaire sur les réseaux sociaux. Désolé pour tous ceux qui ont leur fête, je ne fête jamais des bons anniversaires, joyeuses fêtes, non, jamais sur les réseaux sociaux, ne m'en voulez pas. Okay? Et il y a vraiment un côté où le troisième, c'est intéressant, c'est le nombre de j'aime sur nos publications qui détermine notre satisfaction ou pas, le côté de bonheur. Ah, il y a 30 personnes qui ont aimé mon post, je suis influent. Il y a 45, par contre, lui, là, il y en a eu 200. Comment je fais pour faire? Puis, il y a même maintenant des sites qui proposent d'acheter des amis pour avoir des likes sur les publicités. Ça va loin. Mais dans tous les cas, que vous ayez Facebook ou pas, on a tous des domaines où la jalousie peut rapidement venir. C'est vicieux, c'est très vicieux. Le but, ce n'est pas juste d'enlever Facebook, c'est de mieux gérer notre cœur. Combien disent amen? Là où la comparaison commence, le contentement finit. Vous savez, la jalousie est un voleur de contentement. Au verset 30, le fils aîné lui dit, « Alors que moi je t'ai servi, toi tu lui as donné le veau gras à lui. Il a reçu plus que moi. » Il est en train de se comparer, et là ça lui amène un côté où, ben, « C'est vrai, j'ai jamais eu ça. » Combien de fois quand on se compare à des gens, on se dit, « Mais regarde, j'ai pas assez. » Elle était bien, hein, cette fille-là, avec son 20$ à sa fête. Mais le fait que l'autre avait 1000, c'est comme si elle n'avait rien reçu. On s'entend que si elle avait juste dit « Wow, 20$, ça me suffit amplement, c'est 20$ de bonbons que je pourrais acheter, wow !» Mais elle serait heureuse, peu importe ce que les autres ont reçu. Et souvent, ce que les autres ont reçu, c'est faux. Alors des fois, on se compare, on perd notre joie pour quelque chose qui est faux. L'herbe est toujours plus verte dans le voisin d'à côté, jusqu'à temps que tu te rendes compte que c'est du gazon artificiel. Non, mais c'est vrai. Et là, tu compares ta vie, wow, il est super son gazon, ouais, mais c'est artificiel. Il faut qu'on arrête de regarder à la vie des autres, il faut qu'on regarde à la vie que Dieu veut pour nous. Amen. C'est fou parce que le père lui répond à lui qui se compare, qui devient aigri. Il dit, « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Le fait de regarder ce qu'on a fait de spécial pour lui, que ça fait des années qu'il n'a rien de nous, t'a fait oublier tout ce que tu as reçu depuis des années. Combien de fois tu as mangé à ma table? Combien de fois tu as invité des amis? Et puis ouais, c'est peut-être pas une fête comme ça, mais combien de fois tu as célébré? Combien de protections tu as eues parce que tu étais ici? Combien de choses tu as reçues? Mais le fait qu'il y avait quelque chose de spécial venait d'enlever tout ce que lui avait vécu. En fait, le fils aîné recevait bien plus que le fils qui venait de revenir. Mais parce que c'était une grâce spéciale, ça y est, tout ce que j'ai vécu ne sert à rien. Et puis il commençait à être aigri, à se comparer, à être jaloux. Combien de fois on est comme ça? On regarde la vie des autres et puis on dit « Seigneur, c'est injuste. » Puis Dieu, il doit être là. Tu n'as aucune idée de ce qui est injuste. « Ouais, mais regarde, lui, là, il part en vacances 3 fois par année. » Mais toi, tu as la santé. Oui, mais eux, ces enfants, ils sont tous sages. Oui, mais toi, on ne pourrait jamais se comparer autour. En fait, quand tu te compares, tu perds automatiquement. Il n'y a personne qui gagne à se comparer. Tout le monde perd. Il faut qu'on revienne à se dire, Seigneur, montre-moi toutes les bénédictions que j'ai. La Bible ne nous dit pas, compte les bénédictions des autres, mets-les tous devant tes yeux, alors tu seras frustré. Non. Elle dit, compte les bénédictions, regarde tous les bienfaits que Dieu a. Mets-les devant tes yeux et regarde, tu vas voir, waouh, le nombre est incroyable, Dieu me bénit. Puis je priais juste cette semaine, Seigneur, ouvre les yeux spirituels pour qu'on voie les bénédictions spirituelles qu'on ne voit pas. La protection des attaques qu'on reçoit. Les choses que Dieu nous donne une grâce et puis qu'on ne voit même pas, qu'on prend pour acquis. L'oxygène, ce matin, on s'est réveillé, on est venu ici à l'église. On n'a pas eu d'accident en arrivant. Il y a comme toutes les grâces que l'on a et puis là, on va aller se comparer parce qu'il y a une nouvelle auto. Parfois, c'est fou parce qu'on se compare, on compare des choses matérielles alors qu'on a le plus grand trésor en nous. Juste le fait que nous soyons sauvés par grâce vient mettre un point final à toute comparaison qu'on peut. Peu importe le plus grand des milliardaires sur cette terre, s'il n'a pas Christ, il n'a rien. Tu peux être le plus pauvre, mais si tu as Christ, tu as tout. Quel est le but de notre motivation? Est-ce qu'on va juste passer du temps à essayer de regarder les autres et puis se comparer et puis à passer une vie médiocre? Ou alors on va se dire, Seigneur, tout ce que j'ai me vient de toi et tout ce que j'ai me suffit. Et si tu es là avec moi, je ne manquerai de rien et j'avancerai dans la vie et je célébrerai ton nom et je bénirai les gens qui ont. Si tu leur as donné beaucoup, qu'ils soient bénis. Et si tu m'as donné peu, que tu sois béni. Que tu donnes ou que tu enlèves, que ton nom soit béni. La jalousie, c'est l'art de compter les bénédictions des autres au lieu des siennes. Si on croit que Dieu va pourvoir, il ne faut pas qu'on se compare. Il faut qu'on dise, Seigneur, en ton temps, tu fais toutes choses belles. Peut-être vous, en ce moment, vous vous comparez même à l'intérieur de l'Église. Pourquoi lui, il a eu son miracle et moi, j'attends encore? Pourquoi alors que je prie encore plus que lui? Pourquoi lui, il vient de revenir il y a un an, il n'est même pas baptisé, puis il y a des choses qu'il font dans sa vie. Pourquoi elle s'est mariée alors qu'elle a passé une vie incroyable et puis moi, je suis encore célibataire alors que je me tiens? Ce sont des choses qui sont réelles, qui sont naturelles. Par contre, le côté spirituel vient que Dieu dit, t'inquiète pas, je prends soin de toi. Ne regarde ni à droite ni à gauche, regarde à moi. Et toi et moi ensemble, ta vie va être incroyable. Tu n'auras besoin de rien d'autre. Chacun court sa course. C'est comme dans un stade où on voit des coureurs de marathon. Ils courent sur des lignes, puis il y a vraiment une allée, une rangée. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Chacun court dans ses lignes. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui court, puis dès qu'il commence à partir, ok. Puis là, il fait juste regarder à droite, à gauche. Oh, il y a des beaux souliers, lui. Oh, est-ce que vous croyez réellement qu'il va atteindre son objectif avec le minutage qu'il aura? Peut-être qu'il va courir la course, mais il sera médiocre. Il va peut-être à un moment donné dévier, il va tomber, il va se prendre des... Est-ce qu'on doit courir la course en regardant à droite, à gauche, ou on doit regarder la course en regardant à la fin, à la ligne finale? C'est quoi l'objectif de ma vie? C'est d'amasser beaucoup? C'est d'être celui qui est le plus envié? Non, c'est de terminer et que Jésus, à un moment donné, dise « Rentre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. » Est-ce qu'on peut remercier Dieu et l'acclamer pour tout ce qu'il fait? Parce qu'il nous a donné une vie à vivre et on va la vivre, on va la déclarer, on va s'épanouir. Personne ne peut courir ta course et tu peux courir la course de personne. La jalousie nous vole notre joie. Le verset 28 dit que le fils aîné qui est jaloux de son fils, de tout ce qui est en train de son frère, de tout ce qui est en train de se passer, se mit en colère et ne voulait pas entrer. C'est incroyable parce qu'il y a une fête qui est en train de se passer chez lui. Il y a tous les serviteurs, tout le monde est en train de manger un repas incroyable, ça devait être un festin. Il y a la danse, il y a les chants. Combien croient que l'église doit être un lieu de danse et de chants et de célébration? Amen. Il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent. Il y a vraiment un côté où c'est une fête. Et Dieu veut qu'on fasse la fête quand il y a des bonnes nouvelles. L'évangile est une bonne nouvelle. Et alors qu'il y a une fête qui est en train de se prendre place chez lui, tout le monde est là, tout le monde s'amuse, danse, rit, c'est incroyable. Jusqu'au bout de la nuit, lui, il est là derrière. Je ne veux pas rentrer. Ce n'est pas que je ne peux pas rentrer, c'est que je ne veux pas rentrer. Parce que ce qui se passe, je trouve ça pas juste, ce n'est pas correct. Par quel standard? Le mien. Je trouve que moi, il n'y a pas d'affaire à ça. Et des fois, je me dis, combien de fois, moi, j'ai été comme ça? Je me coupe d'une bénédiction que Dieu veut me donner, d'une communion dans une église. Peut-être qu'il y en a qui ne viennent pas à l'église parce qu'ils sont jaloux de certains, et puis là, ils ne veulent plus. Et il y a la fête qui prend place ici. Il y a la joie, il y a la famille, il y a l'unité. Waouh! Il y a la bonne nouvelle qui est prêchée, il y a du miracle qui est fait. Le sacrifice a été fait et là maintenant tout le monde peut profiter. C'est ce que Christ a fait pour nous. Mais juste parce que tu es jaloux, juste parce que tu te compares, juste parce que tu es une rancune, tu es éloigné et puis tu te dis non, je reste dehors. Ça te vole ta joie. Je me souviens, et puis Pasteur Jackson est là, je suis content que tu es là, Pasteur Jackson, parce qu'on a vécu une situation au début de mon arrivée ici au Québec, alors que j'étais impliqué aux ados. Puis petit à petit, j'étais impliqué bénévolement, et puis je faisais plein de choses. Et puis à un moment donné, il y a un ami avec qui on était petit à petit à ITF, qui commençait à prendre de plus en plus de place dans le côté bénévolat, et puis tout ça. Et puis, pas forcément aux ados, mais un peu à l'église. Et puis petit à petit, je commençais à le regarder. Et puis alors qu'on était amis, je commençais à devenir un rival. Ah, mais regarde, il prend de la place. Et puis petit à petit, ce qu'il fait, on dirait qu'on a commencé ensemble, mais il va deux fois plus vite. On dirait que ce que je pensais moi avoir comme titre, lui l'a. Puis pourquoi je ne l'ai pas encore? Mais pourtant, ça fait du sens que c'est moi qui l'ai. Et puis petit à petit, on dirait que notre amitié a été comme teintée. Puis ma joie qu'on soit ensemble et puis qu'on commençait à être un petit peu difficile. Puis je me souviens que plusieurs de mes responsables à l'époque, Pasteur Seb, Sébastien Cohn, Jackson, m'en avaient parlé en disant, est-ce que ton cœur est clean avec cette personne-là ou est-ce qu'il y avait de la jalousie qui commençait à venir? Et ma vie était juste de, est-ce que je peux l'impressionner, lui montrer que moi aussi je suis capable? OK. Et puis, je venais à l'église, non pas pour que Dieu me voie, mais pour que les autres me voient. OK, je vais faire mieux cette fois-ci. Et ma vie était juste en train d'être, OK, je veux leur montrer que moi aussi je suis capable. Je veux leur montrer qu'il n'y a pas juste eux qui sont capables. Ah, et OK. Puis petit à petit, ça commençait à me voler. Puis je me souviens des discussions qu'on a eues, et puis ça disait, il faut que tu commences à prier pour lui. Il faut que tu commences à le pardonner. Puis il n'a rien fait, hein, mais il faut juste que je relâche. Écoutez, ce n'est même pas de sa faute. Lui, il avance, gloire à Dieu. C'est Dieu qui lui donnait sa faveur. Reconnais ça. Mais toi, il faut que dans ton cœur, tu fasses un nettoyage en disant, garde, je veux relâcher ça parce que ça me volait ma joie. Ça me volait tout ce que je veux. Et puis, mes motifs n'étaient plus bons. Au lieu de juste venir servir, je venais impressionner. Juste au lieu de venir profiter, je venais analyser comment c'était fait, comment... Ah, là, il est tombé. Puis c'est fou parce que la jalousie nous fait arriver à un point où on souhaite que l'autre personne fasse mal. Ah, regarde, il s'est raté. Ça me rassure. T'es encore pire. Mais parfois, c'est tellement insidieux. Puis je suis content parce que tout le monde se reconnaît ici. Vous me regardez comme si j'étais tout seul en avant. Je dis, mais toi là, t'es vraiment bien charnel. Oui, mais on l'est tous. C'est juste que je suis en avant avec le micro. Mais on aurait tous des témoignages où on pourrait dire ça, c'est vrai. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu. La jalousie t'empêche de te réjouir pour les autres, mais elle t'empêche aussi de te réjouir avec les autres. Elle te vole tout. Quand tu es en train de te comparer et puis d'avoir une rancune et puis une critique, ben à un moment donné, c'est toi qui vis mal cette situation. La jalousie nous fait tomber toujours de haut vers le bas. Puis alors que je lisais la presse, il y avait une histoire qui était assez drôle, mais en même temps qui est triste. L'homme âgé de 32 ans qui agissait par jalousie avait utilisé son équipement d'alpinisme pour descendre en rappel du haut de son immeuble de 9 étages, soupçonnant que sa compagne le trompait. Mais la retraitée de 66 ans, qui habitait à l'étage au-dessus, apercevant l'intrus, l'a d'abord menacé de couper la corde et n'obtenant pas de réaction, a mis sa menace à exécution. C'est tombé de haut. Des fois, je me dis, on est tellement comme ça, la jalousie nous fait monter des plans, des choses, on se monte des scénarios, waouh, ok, ouais. Puis en fait, à un moment donné, on se rend compte que, ouh, le seul qui va subir, c'est toi. Il faut que Dieu nous parle en ce moment en disant, Seigneur, restaure les choses. Parce que des fois, si on restaure pas, s'il ne restaure pas nos cœurs maintenant, ça peut briser des relations. Cette histoire du fils prodigue, du frère aîné, du père patient, nous montre qu'il y a eu une brisure entre les deux frères. Son frère, au lieu de se réjouir que son petit frère revienne à la maison, il est resté loin. Il y a eu une dissension, il y a eu une tension. La jalousie a fait qu'entre lui et lui, il y avait une division. Mais aussi entre le fils aîné et le père. Parce que même quand le père vient et puis il le supplie d'entrer, il dit « Non, je ne veux pas. » Et puis regarde ce que toi, tu as fait. Moi, je suis resté fidèle. Et toi, tu as fait une injustice. Et là, le fils aîné, qui peut-être le matin pensait que tout allait bien, revient à la maison et tout est divisé. Est-ce qu'en ce moment, dans tes situations, peut-être avec tes voisins, peut-être à ta job, peut-être à l'école, peut-être là où tu es dans ta famille, Il y a des choses qui sont brisées juste parce que la jalousie a juste comme éparpillé un peu tout le monde. Il faut que tu reviennes à dire, Seigneur, quel est le cœur que tu veux pour moi? C'est fort parce que la Bible n'utilise jamais un terme sans que ça soit pertinent. Il n'y a rien qui est mis au hasard dans la parole de Dieu. Puis je vous encourage, venez mercredi à la soirée théologie, c'est incroyable comment vous allez avoir une foi qui va être encore plus fondée dans la parole de Dieu. Mais à un moment donné, le frère aîné qui est jaloux va parler à son père et puis il va dire, ça montre comment les relations sont brisées. Il lui dit, regarde, ton fils a. Il n'a pas dit, hé, regarde, mon frère a reçu le... Non, non, il dit, hé, ton fils qui a dilapidé. Combien savent que quand ton épouse arrive et commence à dire, ton enfant a fait ça, c'est pas que c'est une bonne nouvelle. Tu dis, ok, là, ça va. Ton fils, avec ton nom, c'est lui qui a fait ça. Et puis là, le père répond, puis il dit, hé, mon enfant. Il ne va pas lui dire, hé, ok, toi là, moi si j'avais fait ça, j'avais dit, t'as une mauvaise attitude envers ton frère, tu vas en conséquence. Non, son père, il revient et dit, oh, non, mon enfant, regarde, ton frère est revenu. Il va renverser en disant, toi, tu veux mettre la division en disant, ton fils, ce n'est pas mon frère, c'est pas... Non, non, son père revient en disant, hé, mon enfant, même si c'était une mauvaise attitude, mon enfant, regarde, ton frère est revenu. Son père amène l'unité là où son frère est jaloux, veut diviser. Est-ce que nous sommes des rassembleurs ou nous sommes des diviseurs? Est-ce qu'on est toujours en train de chercher en disant, ouais, mais t'as vu ce que lui a fait? Ou est-ce qu'on peut juste couvrir avec des paroles de vie en disant, hé, regarde, peut-être qu'en ce moment, il vit une période difficile, mais est-ce qu'on peut prier ensemble pour lui? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que vous croyez que c'est le cœur de Dieu de faire ça? Est-ce qu'on s'engagerait comme église à dire, on va bannir les critiques, on va bannir les médisances, les choses, les jalousies, puis on va réellement prier pour qu'il y ait un esprit d'unité, d'amour, un amour qui croit tout, un amour qui surpasse tout, un amour qui pardonne tout? Combien veulent dire oui? Parce que la jalousie amène la critique. Il va lui dire, mais ton fils qui a dilapidé tes biens, regarde tout ce qu'il a fait. Il lui rappelle le mal qu'il a fait alors que son fils est revenu, il y a eu la repentance, tout est beau, tout est là dans la fête. Puis lui, il rappelle juste le mauvais. Ne soyons pas des personnes comme ça qui vont juste essayer d'aller chercher le mal là où il y a du bien. Parce que si Jésus voyait le mal en nous, comment Dieu nous voit? Est-ce qu'il nous voit en tant que pécheurs ou est-ce qu'il nous voit en tant que pécheurs justifiés par grâce? Quand Dieu nous regarde, puis c'est peut-être une nouvelle pour quelqu'un ici, quand Dieu te regarde, il ne te voit pas en tant que pécheur comme toi tu te vois des fois. Ah, oh, je suis tellement loin de Dieu, tellement sale. Si tu as donné ta vie à Christ, si tu as donné ta vie à Dieu, que tu as été racheté à la croix, tu crois que la croix a tenu le Fils de Dieu et qu'il est mort pour te donner sa vie, puis que tu dis, moi je reconnais ça, je demande pardon à Dieu pour mes péchés, puis je reviens à la croix, puis je veux vraiment suivre sa vie, que son esprit vive en moi. Tu es un enfant de Dieu, tu es réconcilié avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais maintenant, il y a peut-être une condamnation qui est sur toi, en disant, mais Dieu doit me voir tellement sale, tellement... Non, 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 Dieu te voit au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Pour Dieu, tu es co-héritier avec Christ du royaume de Dieu. Ça veut dire que tu es justifié. Ça ne veut pas dire que tu es parfait, mais tu es pur, sanctifié. Ne te regarde pas avec tes yeux. Ne te regarde pas avec les yeux des gens qui te regardent ici-bas. Regarde-toi dans le regard de Dieu. Il te voit comme un enfant, pur, pardonné, justifié. Alors enlève la condamnation. Vis en liberté. Et tu n'as pas besoin de te comparer à personne parce que Christ est seulement devant toi en disant, moi j'ai donné ma vie pour toi, vis ta vie pour moi. Et ensemble, ça va faire quelque chose de grand. Est-ce qu'on manque notre appel, parfois, à cause de la critique? Est-ce qu'on manque parce que je veux tellement sa place, je veux tellement être... Il le fait tellement bien, la comparaison. Je ne peux pas le faire, moi. Combien de personnes ne rentrent pas dans ce que Dieu veut pour eux parce qu'ils se comparent? Ah, oh, regarde, mais je ne peux pas le faire. Puis lui, il a fait mieux. Puis regarde, lui, qu'est-ce qu'ils vont dire? Puis il y a vraiment un côté où on reste là, on manque, alors que Dieu nous appelle à une mission spéciale. Chacun d'entre nous. Pas juste des gens qui sont appelés au ministère ou pas. Non, chacun d'entre nous, Dieu nous a placés à une place, dans une famille, dans un quartier, à une job, pour qu'on puisse briller pour lui, pour que non, ce n'est pas nous qui allons avoir la gloire, mais que lui ait la gloire. Amen. Et ça, il faut qu'on comprenne que Dieu a placé quelque chose de spécial. Mais vous savez, la meilleure façon de tuer ce qui est spécial, c'est de le comparer à quelque chose d'autre. On compare toujours notre pire avec le meilleur des gens. prédicateur aux États-Unis, dit, on compare toujours notre backstage, notre arrière-scène, tout ce qui est mal rangé, tout ce que tu caches derrière. Ça ne veut pas dire que c'est mal rangé et c'est caché derrière le rideau. Mais souvent, chez nous, on a une place où on range tout et puis on fait juste fermer et puis on le sait. Il y a juste nous qui le savons que cette place-là, tu ne la fais pas visiter dans le tour opérateur. Mais tu compares toujours la belle vitrine des gens. Waouh! Et lui, tout a l'air facile, tout a l'air beau, tout a l'air... Mais tu n'as aucune idée de son backstage aussi. Mais des fois, en se comparant, on rate quelque chose. Alors que Dieu dit, prends ta place. Tu dis non, parce qu'il y a lui, il le fait déjà mieux, puis il y a elle, puis eux. Non, non, prends ta place, tu es unique. Arrête de te comparer. Arrête de jalouser. Arrête de te voir comme moindre. Si moi, je donnais ma vie pour toi et que je te donne mon esprit maintenant pour que tu agisses avec puissance dans cette vie, lève-toi. Quelqu'un dira, mais même si maintenant là je suis jaloux, qu'est-ce que je fais? La première des points que ce fils aîné là aurait dû faire, parce que la parabole termine, hein? La parabole termine en disant, le fils, il était en dehors, son père vient le supplier de rentrer, puis il dit, garde, non, je ne le ferai pas parce que je suis frustré, et puis la parabole se termine là. On ne sait pas après. Est-ce qu'il est rentré finalement? Est-ce qu'il est reparti? Est-ce que finalement il a tout abandonné et puis il a dit, ben, si c'est comme ça, je ne reviendrai plus ici, comme beaucoup d'entre nous. Mais voici ce qu'il aurait dû faire. La première des choses, c'est se repentir. Dans cette histoire, quand on commence, il y a un fils fidèle et il y a un fils rebelle. Quand on termine l'histoire, ça s'est inversé. Qui es-tu en ce moment? Est-ce que parce que tu as été fidèle toute ta vie, tu te dis, ben, je mérite ça? Et là, tu deviens rebelle? Ou alors que tu es là en train de juste te dire, je ne prends pour acquis rien? Tout ce que j'ai est une grâce. Et tout ce que j'ai ici, tout ce que je vis ici à l'église, toutes les portes qui ont été ouvertes ou qui ont été fermées, c'est Dieu qui est en son contrôle. Moi, je fais juste suivre, je fais juste servir, je fais juste aimer, je fais juste garder mon cœur. Parce que sinon, il y a quelque chose qui va mal aller. Le premier point, c'est la repentance. C'est le demander pardon à Dieu. Pardon. Le fils revient, puis il dit, je demanderai pardon à mon père. Je viendrai, puis je dirai, si je t'ai offensé, je te demande pardon. Vous savez que la jalousie, alors qu'on essaye de critiquer et puis d'envier les autres. La première personne qui subit, qui est triste, c'est Dieu. C'est notre Père. Il souffre de nous voir souffrir. Il souffre de nous voir loin de lui. Et lui, il dit, j'aimerais tellement que tu sois bien protégé, uni, que tu sois dans l'amour. Mais là, ça me fait mal de te voir mal. Alors la première personne à qui il faut demander pardon, c'est à Dieu. Seigneur, je viens... Puis j'ai mal fait. Si j'ai été jaloux de quelqu'un, Seigneur, je te demande pardon. Et puis je crois que ce matin, il y a des personnes qui vont avoir une conviction de l'esprit en disant, il faut que je demande pardon à Dieu pour l'attitude que j'ai eue, pour les critiques que j'ai dites, pour la comparaison que j'ai faite, puis que ça m'a empêché d'entrer dans la destinée que j'ai. Vous savez, Galates 5, Paul est en train de dire, inspiré de l'esprit, il dit que la jalousie fait partie des œuvres de la chair. Ça veut dire des choses qui sont rebelles à Dieu. Et il les compare avec les fruits de l'esprit. Il dit, voici les fruits de l'esprit, l'amour, la paix, la joie. Il y a vraiment un côté où ça glorifie Dieu, mais la jalousie n'en fait pas partie. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Combien veulent marcher par l'esprit ce matin? Dire tout ce qui est de Dieu, je le veux. Tout ce qui est contre Dieu, je le relâche. Alors que les musiciens remontent. La deuxième chose que ce fils-là aurait dû faire après demander pardon à Dieu, c'est qu'il aurait dû parler à son cœur en disant, je vais commencer à bénir et à prier pour cette personne. Mon frère qui est là est revenu, il a vécu des galères que, waouh, ça doit être inimaginable. Et puis moi, j'étais bien pendant ce temps-là. Et même si des fois, je trouve qu'il y a des situations qui sont injustes, ben, je veux dire à mon cœur, regarde, bénis, prie pour lui. Si en ce moment, tu vois quelqu'un que tu jalouses, alors que ce message, il est là, il y a toujours son visage qui revient. Lâche-moi un peu. Non, c'est peut-être que l'esprit te dit, garde, toi aussi, tu dois faire une action. Commence à prier pour lui. Je me souviens des conseils qu'on m'avait donnés alors que c'était cette période-là. Ils m'avaient dit, la meilleure manière d'enlever la jalousie, c'est de prier pour la personne. Puis j'étais comme, t'as pas compris. C'est parce que je veux justement pas prier pour cette personne. Puis c'était là la clé. Je veux pas vivre comme moi je veux. Je veux pas réagir comme moi je veux réagir. Je veux réagir comme Christ. Et si Christ me dit, il ne faut pas qu'il y ait d'envie, de jalousie, d'animosité entre vous, ben il va falloir que je suive ça. Ouais, mais c'est difficile. Ouais, mais il te donne la force pour. Alors si son esprit vient en moi, il peut rendre la vie à tout ce qui est mort. Et si le pardon est difficile à donner, ben je veux le proclamer par la foi, que Seigneur, je te prie pour cette personne. Et je vous le dis, alors que je vivais cette jalousie avec lui, je commençais à prier. Puis au début, c'était difficile. C'était des prières de foi. Je ne le vivais pas encore. Seigneur, bénis-le. Et je commençais ma prière. Seigneur, tu vois que c'est difficile. Tu le connais. Tu vois, il veut briller, il veut se montrer. Moi, c'est difficile. Moi, je suis dans le secret. Tu sais, j'essayais de me justifier. Jusqu'à un moment donné, j'arrive en disant, Seigneur, aide-moi à l'aimer. Aide-moi à célébrer. Mais à chaque fois qu'il faisait quelque chose de beau, ben, ça me rappelait que moi, je n'étais pas là. Puis j'étais, ah. Mais à un moment donné, j'ai dû juste dire, je suis heureux. Je suis heureux pour lui. Je bénis, je prie pour lui. Et je suis même arrivé à prier, Seigneur, fais que son ministère, fais que son implication, fais que tout ce qu'il fasse soit incroyablement puissant pour ton royaume. J'en suis arrivé à avoir une relation avec lui de frère. On n'était même plus juste des amis, on était des frères. On s'est aidés à certains niveaux, on prie encore les uns pour les autres. Mais il y a un côté où, si tu veux garder ton cœur fermé, Dieu va te le laisser fermé. Mais si tu lui dis, Seigneur, ça va être difficile, mais je te prie de l'ouvrir, juste cette volonté-là, Dieu y rentre et il fait le ménage. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est peu importe qui tu es, peu importe qui tu as été, c'est pas à propos de qui tu es ou qui tu as été, c'est à propos de ce que Jésus a fait. Et lui, il a donné une liberté totale. Sur toutes les œuvres de la chair, il a dit, il y a le cœur que je vais te donner. Notre jalousie nous vole l'amour. Et des fois, on veut juste du mal. Ah, si il pouvait tomber. Non, c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on puisse se regarder les uns avec les autres en disant, je voulais ce ministère-là, c'est toi qui l'as. Mais moi, mon ministère va être de prier pour toi. Puis moi, je voulais chanter, ou moi, je voulais prêcher, ou moi, je voulais être celui qui allait être choisi là-bas, ou moi, je voulais être celui qui allait tourner partout sur la terre. Et puis, ben regarde, si Dieu n'a pas décidé que c'est son temps maintenant, je vais prier pour toi. Et je vais prier deux fois plus pour toi. Puis je vous dis ce matin, s'il y a quelqu'un en ce moment dans votre tête que vous dites, j'ai du mal avec cette personne, je te défie de prier pour cette personne deux fois plus, de proclamer des paroles de vie. Seigneur, je te prie pour cette personne, je te prie pour que tout aille bien dans sa vie, pour que ça fleurisse. Aide-moi à l'aimer comme toi tu l'aimes. Et je vous le dis, vous ne pourrez jamais rester en rancune avec quelqu'un pour qui vous priez. Prier pour quelqu'un nous fait aimer la personne. Parce que tu es en train de déclarer la parole et l'amour de Dieu pour cette vie. Ce qui fait que quand tu donnes le feu de la parole de Dieu, qui est bouillonnante, le feu te brûle aussi. Il y a quelque chose qui est en train de se produire. Et le feu du premier amour revient. Je n'ai jamais été aussi heureux que quand je bénis les gens. Je n'ai jamais été aussi malheureux que quand je jalouse les gens. La troisième et dernière chose, c'est que, alors qu'il y a un pardon à demander à Dieu, une repentance, il y a une déclaration à se faire en disant « Non, je prierai pour lui, je bénirai. » Mais il y a aussi une action d'aller encourager la personne et d'aller lui dire, moi je vais être ton soutien. Quand tu fais ça là, je t'encourage, des paroles de vie. Qu'on soit une église qui donne des paroles de vie, qui sortent de votre bouche aucune parole mauvaise, malsaine, qui divise, qui sortent au contraire une parole de bénissante, une parole qui encourage, qui relève, qui édifie. Imaginez-vous si tous ici on se parlait, on se regardait, on priait les uns pour les autres et puis il n'y aurait aucune division, aucune jalousie. Est-ce qu'elle serait là? Non, on ne la laisserait pas rentrer. Puis on serait juste en train, waouh, je suis content que tu sois là. Et puis je priais pour toi cette semaine. Imaginez l'impact que ça pourrait avoir sur nous, nos familles, notre job. Dieu est ici et Dieu veut restaurer nos cœurs. Et je suis le premier à lever la main à l'appel. Seigneur, sonde mon cœur, oh Dieu. Vois si je suis sur une mauvaise voie. Et garde-moi, conduis-moi vers toi. Je veux pas me détourner de rien de toi. Est-ce qu'il y a une église qui dit, ça c'est notre décision? Est-ce qu'on pourrait fermer les yeux ensemble? Et alors qu'en terminant, on va prendre la communion. On va prendre le pain et le vin. Mais avant ça, j'aimerais qu'on fasse un appel ce matin. Peut-être que tu es là et puis tu te dis, je suis proche de Dieu, mais je viens de me rendre compte qu'en fait, il y avait une des parties de mon cœur qui est pas clean devant Dieu. Il y a des ténèbres qui essaient de reprendre la place alors que j'entends la parole de Dieu qui est la lumière et qui brille partout. Et quand la lumière de Dieu est là, c'est comme un soleil. Il n'y a aucune ombre qui tient. Il n'y a aucun ténèbre qui est là. Alors ce matin, ton but à toi, c'est juste d'ouvrir la porte et de dire, Seigneur, viens briller. Moi, je ne peux pas me changer moi-même, mais toi, tu peux me changer. Je te fais de la place. La fin de ce passage, c'est que son père vient supplier son fils de rentrer. Son fils a une mauvaise attitude, mais son père vient en disant, si tu peux venir, viens. Il n'a pas juste invité cordialement, il a dit, je te supplie de rentrer, viens fêter avec nous. C'est la même chose, Dieu est là. Et Dieu est en train de te supplier de revenir à lui. Il t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu passes à côté de la fête. Il t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu manques la célébration. Alors que dans cette histoire, la table est mise, tout le monde mange, tout le monde, c'est la fête. Nous, c'est la même chose. Le sacrifice de Christ a été accompli. Nous avons juste à nous asseoir autour de la table de Dieu et de célébrer en famille, tous d'un même cœur, d'un même corps. La jalousie n'a pas de place parce que la fête est là. La fête est trop belle. L'amour de Dieu est trop beau pour qu'on puisse s'en séparer. On puisse dire, non, je ne vais pas rentrer. Son Père est venu et il a supplié de revenir. Et ce matin, j'avais vraiment cette parole-là, toute la semaine alors que je prêchais, c'est que les bras du Père étaient assez grands pour tenir ses deux fils ensemble. Mais il y en a un qui est resté loin de ces bras-là. Est-ce que tu vas rester loin des bras du Père? Que Dieu dit, moi, mes bras sont grands ouverts. Christ a tout accompli et j'ai assez de place pour tout le monde. Dans un amour, dans une unité, dans ma maison, je veux que tout le monde puisse venir célébrer. Est-ce que tu veux venir dans ses bras? Et alors que tous les yeux sont fermés ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit « Moi, c'est mon désir » alors que moi, je reviens à Dieu ce matin? Il y a peut-être la jalousie, la comparaison qui est en train de me voler ma joie, les choses. Et puis, je veux revenir en disant « Seigneur, pardonne-moi. Je veux revenir à toi, puis je veux bénir. » Si c'est ton désir, juste lever ta main. Alors qu'il n'y a personne qui regarde, c'est juste entre toi et Dieu. Mais symboliquement, fais un pas en disant « Seigneur, moi, je reviens à toi. » Merci pour les mains qui se lèvent. Je suis le premier à lever la main ce matin parce que ce message-là est pour moi. Seigneur, plus proche de ton cœur et moins du mien, que je diminue et que tu grandisses. Prends ta place et que je diminue, que je disparaisse. Parce que en toi, je sais qui je suis. Mais sans toi, je sais qui je suis. Je suis tellement pécheur, je suis tellement loin. Et ta vie en moi change tout. Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble? Et alors que je vais demander au préposé pour la communion de s'avancer, je trouvais que la meilleure manière de finir ce message était de prendre la communion. Les bras du Père sont grands, ouverts pour nous. Et s'il y a quelque chose en ce moment, la Bible nous dit qu'avant de prendre la communion, le corps, le pain et le vin, de se rappelant du sacrifice de Jésus, la Bible nous dit de nous examiner nous-mêmes. C'est ce qu'on a fait pendant les 30 dernières minutes. Seigneur, change mon cœur. Et je veux qu'ici, personne ne se refuse à l'apprendre. Non, parce que si tu es revenu à Dieu ce matin, tu peux l'apprendre, tu dois l'apprendre. La communion est avec Dieu, mais ensemble. Alors, on va prendre le pain, le vin, puis prenez la coupe, puis gardez-la dans vos mains, on va la prendre tous ensemble, comme un signe d'unité. Mais je veux vraiment que ce matin, on puisse se dire, Seigneur, si mes paroles ont été mauvaises, si mes paroles ont été de la mort au lieu de la vie, je veux que tu reviennes changer mon cœur, je veux que tu reviennes changer mes motifs. Je veux que tu me donnes la force d'aller voir mon voisin demain, que je critique tout le temps, et puis que je lui dise, hey, ton gazon est beau aujourd'hui. Et si je veux faire une différence, Seigneur, aide-moi à prier pour les gens qu'en ce moment, ma chair veut juste maudire. Aide-moi à aller et à briller ta lumière. Pas la mienne, mais la tienne. On est réconcilié avec le Père au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Et ce matin, c'est en aucun autre nom que nous venons que celui de Jésus-Christ. C'est lui qui peut changer nos cœurs, c'est lui qui peut racheter notre vie, c'est lui qui a racheté l'humanité. Et c'est lui qu'on revient ce matin célébrer. Alors qu'on va prendre le pain ensemble, la parole nous dit que Jésus ensuite prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna à ses disciples en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Mangeons ensemble. Seigneur, merci pour ton corps qui a été brisé pour nous. Ce que nous devions vivre, toi, tu l'as vécu. Et toute l'identité que tu avais nous a été donnée. Nous sommes réconciliés avec Dieu grâce à toi. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes co-héritiers avec toi du royaume de Dieu. Seigneur, merci parce que ton corps a subi ce que nous n'avons pas à subir. Alors Seigneur, on veut oublier ce qu'on vit nous dans cette chair ici. On veut juste te dire, on veut revenir à ton sacrifice. Et merci pour ton corps. Il prit de même la coupe. Et après le souper, il la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Buvons ensemble. Seigneur, merci pour ton sang. Merci parce qu'il a été versé. Et Seigneur, c'est ça notre protection. C'est ça la vérité qui nous sauve du péché, de n'importe quel péché qui pourrait nous voler de ta présence. Le sang vient couvre. Seigneur, on vient se rappeler que nous sommes sous ce sang. Et Seigneur, si on s'en est écarté, on revient ce matin, on revient à la maison, on vient fêter ensemble, on vient enlever tout ce qui n'est pas de toi et on vient reprendre tout ce que tu as prévu pour nous. Alors qu'on va chanter ce chant qui dit justement « Les bras du Père sont grands ouverts, il fait grâce. » C'est le prix du sang de Jésus-Christ, c'est que Dieu a tout accompli pour que nous soyons ensemble. Nous communions ensemble avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit. Et maintenant, nous allons le proclamer. Est-ce qu'il y a une église qui veut le proclamer? Est-ce qu'on pourrait applaudir notre Dieu qui fait une œuvre incroyable en nous? Qui change nos cœurs. À chaque fois qu'on vient lui demander de changer, il nous change. Alors vous pouvez donner votre cup à la personne à votre gauche ou à droite, juste pour qu'on puisse les prendre dans les allées centrales. Et j'aimerais en terminant qu'on puisse chanter, proclamer que notre Dieu fait une différence. Là où ses enfants disent « Seigneur, viens », Dieu prend la place. Alors on va chanter ensemble. Est-ce qu'on peut lever nos bras si vous n'avez plus rien dans les mains? Est-ce qu'on peut lever nos bras en signe d'abandon en disant « Seigneur, viens faire ta place en moi. Viens changer mon cœur. » Et change mes pensées. Et change mes pensées. Et change mes pensées. Et change mes pensées. Et change mes pensées.